Dubrovski, chapitre 3. Vers 7 heures du soir, quelques invités voulaient partir, mais l'amphitryon, émoustillé par le punch, ordonna de fermer la porte cochère et annonça qu'il ne laisserait partir personne jusqu'au lendemain matin. Bientôt la musique se fit entendre, les portes du salon s'ouvrirent et le bal commença. L'amphitryon et ses intimes étaient assis dans un coin et buvaient verre sur verre en contemplant la gaieté de la jeunesse. Les dames âgées jouaient aux cartes. Il y avait moins de danseurs que de dames, comme partout il n'y a pas de brigade de Uhlans en garnison. Tous les hommes capables de danser étaient enrôlés. Le précepteur se distinguait entre tous. Toutes les demoiselles le choisissaient et trouvaient qu'avec lui on valsait très aisément. Il dansa plusieurs fois avec Marie Kirillovna et toutes les demoiselles les remarquaient en plaisantant. Enfin, vers minuit, l'amphitryon fatigué arrêta les danses, donna l'ordre de servir le souper et lui-même alla se coucher. L'absence de Cyril Pietrovitch donna à la société plus de liberté et d'animation. Les danseurs osèrent se placer à côté des dames. Les jeunes filles riaient et chuchotaient avec leurs voisins. Les dames causaient bruyamment d'un côté de la table à l'autre. Les hommes buvaient, discutaient, riaient aux éclats. En un mot, le souper fut excessivement gai et laissa beaucoup d'agréables souvenirs après lui. Seul un invité ne prit pas part à la joie générale. Antoine Pavlovitch était assis, sombre et muet à sa place, mangeait distraitement et paraissait excessivement inquiet. Les conversations au sujet des brigands troublaient son imagination. Nous verrons bientôt qu'il avait une raison suffisante de les craindre. Antoine Pavlovitch ne mentait pas en prenant Dieu à témoin que sa cassette rouge était vide. Elle l'était en effet. Les billets de banque qu'il y gardait autrefois étaient passés dans un sac de cuir qu'il portait sur sa poitrine, sous sa chemise. Seule cette précaution tranquillisait la méfiance qu'il avait pour tout le monde et sa crainte perpétuelle. Obligé qu'il était de passer la nuit dans une maison étrangère, il craignait qu'on ne lui donnât une chambre éloignée où les voleurs auraient pu facilement s'introduire. Il cherchait des yeux un compagnon sûr, et il choisit enfin Desforges. Son extérieur, qui annonçait la force et plus encore le courage qu'il avait montré dans la rencontre avec l'ours, dont le pauvre Antoine Pavlovitch ne pouvait se souvenir sans trembler, avait guidé son choix. Lorsqu'on se leva de table, Antoine Pavlovitch se mit à tourner autour du jeune Français tout en toussant et enfin s'adressa à lui pour lui faire cette déclaration. Monsieur, ne peut-on pas passer la nuit dans votre chambre? Parce que, voyez-vous... » Que désire monsieur ? Demanda Desforges en saluant poliment. Oh, malheur, monsieur, t'as pas encore appris le russe. Ben, je veux, moi, chez vous, coucher, comprends-tu ? Mais monsieur n'avait qu'à ordonner, répondit Desforges. Antoine Pavlovitch, très content de ses connaissances en langue française, s'en alla tout de suite donner des ordres. Les invités prirent congé les uns des autres et chacun s'en alla dans la chambre qui lui était désignée. Et Antoine Pavlovitch s'en alla avec le précepteur dans le corps de bâtiment séparé. La nuit était noire. Desforges éclairait le chemin avec une lanterne. Antoine Pavlovitch marchait derrière lui assez courageusement, pressant de temps en temps la somme cachée sur sa poitrine pour se convaincre que l'argent était encore sur lui. Arrivé dans la chambre, le précepteur alluma une bougie et tous deux se mirent à se déshabiller. Cependant, Antoine Pavlovitch marchait dans la chambre et examinait les serrures et les fenêtres en hochant la tête pendant cet examen peu consolant. Les portes étaient fermées seulement par un verrou. Les doubles fenêtres n'étaient pas encore en place. Il aurait bien voulu s'en plaindre à Desforges, mais ses connaissances en langue française étaient trop limitées pour une explication si compliquée. Le français ne comprit pas, et Antoine Pavlovitch fut contraint de taire ses plaintes. Les lits étaient l'un en face de l'autre. Tous deux se couchèrent et le précepteur souffla la bougie. « Pourquoi vous soufflez? Dormir, je ne peux pas dans les ténèbres !» s'écria Antoine Pavlovitch dans un jargon moitié français, moitié russe. Desforges ne comprit pas son exclamation et lui souhaita une bonne nuit. « Maudit mécréant !» grommela Spircine en s'enveloppant dans sa couverture. Il avait bien besoin de souffler la bougie. Et pour lui, c'est plus mal. Oh, je ne peux pas dormir sans lumière. « Monsieur, monsieur, continua-t-il, je veux avec vous parler. » Mais le français ne répondit pas et bientôt se mit à ronfler. « Il ronfle, cet animal de français !» pensait Antoine Pavlovitch. « Et moi, j'ai pas envie de dormir. Je crains que les voleurs ne viennent par la porte ouverte et qu'ils entrent par la fenêtre, et lui, l'animal, on ne le réveillera pas à coup de canon. « Monsieur, monsieur, que le diable emporte !» Antoine Pavlovitch se tut. La langue et le fumet des vins, peu à peu, prirent le dessus sur sa frayeur. Il s'endormit et bientôt un sommeil profond s'empara de lui complètement. Un réveil étrange l'attendait. Il sentait dans son sommeil que quelqu'un le tirait doucement par l'échancrure de sa chemise. Antoine Pavlovitch ouvrit les yeux et à la pâle clarté du matin d'automne, il vit devant lui Desforges. Le français en chemise tenait d'une main un pistolet de poche et de l'autre détachait le sac sacré. Antoine Pavlovitch s'évanouit. « Qu'est-ce que c'est, monsieur? Qu'est-ce que c'est ? » dit-il d'une voix tremblante. « Plus bas, taisez-vous !» répondit le précepteur, dans le russe le plus pur. « Taisez-vous, vous êtes perdu !»« Je suis Dubrovski !»
Maintenant, nous allons demander au lecteur la permission de lui expliquer les derniers épisodes de notre nouvelle par les circonstances qui ont précédé que nous n'avons pas encore racontées. À la station de... dans la maison du maître de poste dont nous avons déjà parlé, était assis dans un coin un voyageur dont l'air humble et patient annonçait un étranger, c'est-à-dire un homme dont la voix n'avait aucune influence à la station de poste. Sa carriole était dans la cour attendant qu'on l'agressât. Il y avait dedans une petite valise, preuve de fortune assez maigre. Le voyageur ne se commandait ni thé ni café. Il regardait par la fenêtre et sifflait, au grand déplaisir de la femme du maître de poste qui était assise derrière la cloison. « Dieu nous a envoyé un siffleur !» disait-elle à demi-voix. « Oh, comme il siffle, mais qu'il crève ce mécréant maudit !»« Eh bien, quoi ?» dit le maître de poste. « Quel malheur y a-t-il qu'il siffle ?»
« Quel malheur !» répondit l'épouse en colère. « Mais est-ce que tu ne sais donc pas que le proverbe ?»«
Quel proverbe ?»«
Ah, celui qui siffle chasse l'argent. Eh, ma chère Paronovna, chez nous, comment chasser ce qui n'y est pas ? Nous n'avons jamais d'argent. »« Laisse-le partir, Sidorich. Quel plaisir as-tu de le retenir ? Et donne-lui des chevaux et qu'il s'en aille au diable. »«
Mais il attendra, Paronovna. » À l'écurie, il n'y a que trois attelages de Troïka. Le quatrième attelage se repose. J'ai peur qu'ils ne viennent de riches voyageurs. Je ne veux pas me compromettre à cause de ce français. Voilà, justement, on arrive au galop. Et lestement encore, n'est-ce pas un général? Une voiture s'arrêta au perron. Un domestique descendit du siège, ouvrit la portière, et une minute après, un jeune homme, vêtu d'un manteau militaire et coiffé d'une casquette blanche, entra chez le maître de poste. Derrière lui venait un domestique qui portait une cassette qu'il plaça sur le bord de la fenêtre. « Des chevaux !» cria l'officier d'une voix impérative. « Tout de suite !» répondit le maître de poste. « Vous désirez des chevaux de route ?»« J'ai moi-même des chevaux de route, je change de direction. Est-ce que tu ne me reconnais pas ?» Le maître de poste fit l'empresser et s'élança pour presser les cochers. Le jeune homme se mit à se promener de long en large dans la chambre, passa de l'autre côté de la cloison et demanda à bas à la femme du maître de poste « Quel est ce voyageur ?»« Dieu seul le sait, » répondit la femme du maître de poste. « C'est un Français. Voilà déjà 5 heures qu'il attend des chevaux et siffle. Il m'ennuie, ce maudit. » Le jeune homme se mit à parler français avec le voyageur. « Où allez-vous ? » lui demanda-t-il. « À la ville voisine, » répondit le Français, « et de là je me rendrai chez un propriétaire foncier qui, sans me connaître, m'a engagé en qualité de précepteur. Je pensais arriver aujourd'hui, mais, monsieur le maître de poste, je crois en a décidé autrement. Dans cette contrée, il est difficile de trouver des chevaux, monsieur l'officier. « Et chez quel propriétaire foncier vous rendez-vous ? » demanda l'officier. « Chez Troïekourov, » répondit le Français. « Chez Troïekourov, qui est-il, ce Troïekourov ?»« Ma foi, monsieur, j'ai entendu peu de bien de lui. On raconte que c'est un monsieur orgueilleux et original qui traite ses domestiques avec une telle cruauté que personne ne peut vivre avec lui et que tous tremblent à son seul nom et qu'avec les précepteurs, il ne prend pas de gants. » « Comment ? Et vous avez pris la résolution d'aller chez ce monstre ? Mais que faire, monsieur l'officier ? Il me propose de jolis appointements, 3 000 roubles par an et l'entretien. Peut-être serais-je plus heureux que les autres. J'ai ma vieille mère à laquelle j'envoie la moitié de mes appointements. Avec le reste, oh, je peux en 5 ans ramasser un petit capital, suffisant pour mon indépendance dans l'avenir. » « Alors, bonsoir, je pars pour Paris et je me lancerai dans le commerce. »« Quelqu'un vous connaît-il dans la maison de Troïekourov ? » demanda-t-il. « Personne, » répondit le précepteur. « Il m'a fait venir de Moscou par l'entremise d'un de ses amis, qui est un de mes compatriotes pour cuisinier et qui m'a recommandé. Il faut vous dire que je ne me préparais pas à être précepteur, mais à être confiseur, mais... On m'a dit que dans votre pays, la profession de précepteur était sans contredit plus avantageuse. L'officier devint pensif. Écoutez, réinterrompit-il, si au lieu de cet avenir, l'on vous proposait 10 000 roubles en argent comptant, à la condition de vous rendre à Paris immédiatement. Le Français regarda l'officier avec étonnement, sourit et hocha la tête. « Les chevaux sont prêts !» dit le maître de poste qui entrait. Le domestique confirma la même chose. « Tout de suite !» répondit l'officier. « Sortez pour un instant !» Le maître de poste et le domestique sortirent. « Je ne plaisante pas, » continua-t-il toujours en français. « Je puis vous donner 10 000 roubles. Il me faut seulement vos papiers et votre absence. » À ces mots, il ouvrit une cassette et en sortit quelques paquets de billets de banque. Le Français écarquilla les yeux. Il ne savait que penser. « Mon absence, mes papiers, » répétait-il avec étonnement. « Voici mes papiers. Mais vous plaisantez. Pourquoi vous donnez mes papiers ? Ce n'est pas votre affaire. Je vous demande si vous consentez, oui ou non. » Le Français, sans en croire ses oreilles, tendit ses papiers au jeune officier qui les parcourut vivement. « Votre passeport, bien, une lettre de recommandation, voyons, un extrait de naissance parfait. Eh bien, voilà votre argent, repartez, adieu. » Le Français restait immobile comme cloué. L'officier revint. J'allais oublier le plus important. Donnez-moi votre parole d'honneur que tout cela restera entre nous. Votre parole d'honneur. Ma parole d'honneur, répondit le Français, mais mes papiers, que puis-je faire sans eux? Dans la première ville venue, déclarez que vous avez été dépouillé par Dubrovski. On vous croira ou l'on vous donnera les certificats nécessaires. Adieu. Que Dieu vous aide à arriver vite à Paris et à trouver votre mère en bonne santé. Dubrovski sortit de la chambre, monta en voiture et partit au galop. Le maître de poste regardait par la fenêtre, et quand la voiture fut partie, il dit à sa femme en s'exclamant « Paromovna, sais-tu qui c'était? Mais c'était Dubrovski !» La femme du maître de poste se hâta à la hâte vers la fenêtre, mais il était trop tard. Dubrovski était déjà loin. Elle se mit à gronder son mari. « Tu ne crains pas, Dieu? Pourquoi m'as-tu pas dit cela avant? J'aurais au moins regardé, Dubrovski. Et maintenant, attends qu'il vienne de nouveau. Tu es sans conscience, vraiment sans conscience. » Le Français restait encore immobile, comme cloué. Cette convention avec l'officier, l'argent, tout lui paraissait un songe. Mais les paquets de billets de banque étaient là, dans sa poche, et lui affirmait éloquemment la réalité de cet incident étonnant. Il résolut de louer des chevaux jusqu'à la ville. Le postillon le conduisit au pas et l'amena la nuit en ville. Avant d'arriver aux portes, où à la place de la sentinelle était une guérite renversée, le Français ordonna d'arrêter, descendit de voiture et s'en alla à pied, après avoir expliqué par signet au postillon qui lui donnait la voiture et la valise en pourboire. Le postillon fut aussi étonné de cette générosité que le Français lui-même l'avait été de la proposition de Dubrovski. Mais, tirant conclusion de cela, que cet Allemand était devenu fou, le postillon remercia avec un salut profond, et considérant comme inutile d'entrer en ville, il se dirigea vers une maison borgne dont le propriétaire était son ami. Là, il passa toute la nuit, et le lendemain matin, il revint chez lui, sur un des trois chevaux, sans voiture et sans valise, le visage enflé et les yeux rouges. Muni des papiers du Français, Dubrovski se présenta hardiment, comme nous l'avons déjà vu, chez Troyekourov, et s'installa chez lui. Quelles étaient ses secrètes intentions? Nous le saurons après. Mais dans sa conduite, il n'y avait là rien de blâmable. À la vérité, il s'occupait peu de l'instruction du petit Sacha, lui donnait pleine liberté de polissonner et ne le punissait pas sévèrement au sujet des leçons qu'il lui donnait à apprendre seulement pour la forme. Mais en revanche, il suivait avec une grande attention les progrès de Marie en musique et souvent des heures entières restait au piano avec elle. Tous aimaient le jeune précepteur. Cyril Pietrovitch à cause de son agilité audacieuse à la chasse, Marie Krylovna à cause de son application sans bornes et son attention servile, Sacha à cause de son indulgence pour ses espiègleries, les domestiques à cause de sa bonté, de sa générosité, visiblement peu d'accord avec sa fortune. Lui-même paraissait attaché à toute la famille et se comptait déjà comme membre de cette famille. Depuis son entrée dans la maison en qualité de précepteur jusqu'au jour mémorable de la fête patronale, il s'était passé environ un mois et personne ne soupçonnait que sous les dehors du jeune Français modeste se cachait le terrible brigand dont le nom remplissait d'horreur tous les propriétaires des environs. Pendant tout ce temps, Dubrovski ne quitta pas Pokrovski, mais le bruit de ses brigandages ne s'arrêtait pas, grâce à l'imagination inventive des villageois. Mais peut-être aussi que sa bande continuait ses opérations, même pendant l'absence du chef. Passant la nuit dans la même chambre qu'un homme qu'il aurait pu regarder comme son ennemi personnel et le principal coupable de son malheur, Dubrovski ne put résister à la tentation. Il connaissait l'existence du sac et résolut de s'en emparer. Nous avons vu comme il étonna le pauvre Antoine Pavlovitch par sa transformation subite de précepteur en brigand. Plusieurs jours se passèrent sans aucun fait mémorable. La vie des habitants de Pokrovski était monotone. Cyril Pietrovitch allait chaque jour à la chasse. La lecture, les promenades, les leçons de musique occupaient Marie Kirillovna, surtout les leçons de musique. Elle commençait à comprendre son propre cœur et avouait avec dépit qu'il n'était pas indifférent au mérite du jeune Français. Lui, de son côté, ne sentait pas des limites du respect et des sévères convenances, et de la sorte tranquillisait sa fierté et ses doutes craintifs. Elle, avec une confiance de plus en plus croissante, s'abandonnait à son habitude séduisante. Elle s'ennuyait sans déforge. Quand il était là, elle s'occupait continuellement de lui, voulait savoir son opinion sur tout, et était toujours d'accord avec lui. Peut-être n'est-elle pas encore amoureuse, mais au premier obstacle fortuit, ou au moindre revers inattendu du sort, les flammes de la passion devaient embraser son cœur. Une fois un jour arrivé dans la salle où l'attendait son professeur, Marie Kirillovna remarqua avec étonnement un trouble sur son visage pâle. Elle ouvrit le piano, chanta quelques mesures, mais Dubrovski, sous prétexte qu'il avait mal à la tête, s'excusa, interrompit la leçon, rangea les morceaux de musique et lui remit une lettre en cachette. Marie Kirillovna, sans avoir le temps de réfléchir, prit cette lettre et s'en repentit immédiatement. Mais Dubrovski n'était déjà plus dans la salle. Marie Kirillovna s'en alla dans sa chambre, ouvrit la lettre et lut ce qui suit. « Soyez ce soir à 7 heures dans le kiosque près du ruisseau. Il m'est indispensable de vous parler. » Sa curiosité était fortement éveillée. Elle attendait depuis longtemps cet aveu, le désirant et le craignant. Il lui était agréable d'écouter la confirmation de ce qu'elle devinait elle-même. Et elle comprenait que c'eût été pour elle inconvenant d'écouter une pareille explication d'un homme qui, à cause de son rang, ne pouvait jamais espérer recevoir sa main. Elle résolut d'aller au rendez-vous, mais était indécise seulement sur un point. Comment devait-elle accepter l'aveu du précepteur ? Était-ce avec une colère aristocratique, avec un encouragement amical, avec de gaies plaisanteries ou encore avec un mutisme complet? Cependant, elle regardait continuellement sa montre. La nuit vint, on apporta des bougies. Cyril Pietrovitch se mit à jouer au boston avec des voisins qui étaient arrivés. La pendule de la salle à manger sonna 10h15 et Marie Kirillovna sortit doucement sur le perron, regardant de tous les côtés, et puis elle courut au jardin. La nuit était noire, le ciel était couvert de nuages, il était impossible de rien voir à 2 pas. Mais Marie Kirillovna marchait dans l'obscurité par des chemins connus, et une fois, une minute après, elle arrivait au kiosque. Là, elle s'arrêta pour reprendre haleine et se présentait devant Desforges avec l'air indifférent et calme. Mais Desforges était déjà devant elle. « Je vous remercie, lui dit-il d'une voix douce et triste, de ne pas avoir repoussé ma prière. J'aurais été au désespoir si vous n'aviez pas consenti. » Marie Kirillovna répondit avec une phrase préparée d'avance. « J'espère que vous ne me ferez pas regretter mon indulgence. » Il se tut, paraissant faire un effort sur lui-même. « Les circonstances exigent, oh, Je dois vous quitter, dit-il enfin. Bientôt peut-être vous entendrez, mais avant de vous quitter, je dois même moi-même avoir une explication avec vous.
Marie Kiliovka ne répondit rien.
Dans ses paroles, elle voyait la préface de l'aveu attendu. « Je ne suis pas ce que vous pensez, » continua-t-il en baissant la tête. « Je ne suis pas le Français des forges. Je suis Dubrovski. » Marie Kirillovna poussa un cri. « Ne craignez rien, pour l'amour de Dieu, vous ne devez pas craindre mon nom. »« Oui, je suis le malheureux que votre père a privé de son pain, qu'il a chassé de sa maison paternelle et qu'il a envoyé voler sur les grands chemins. Mais vous n'avez rien à craindre, ni pour lui, ni pour vous. Tout est fini, je lui ai pardonné, vous l'avez sauvé. » Mon premier exploit sanglant devait s'accomplir à son détriment. Je marchais autour de sa maison pour indiquer où mettre le feu, comment entrer dans sa chambre et lui couper toute retraite. Et à ce moment, vous êtes passé près de moi comme une vision céleste et mon cœur a été dompté. J'ai compris que la maison où vous habitez est sacrée, qu'aucun être lié avec vous par les liens du sang n'est passible de ma bénédiction. J'ai renoncé à la vengeance comme à une folie. Des jours entiers, je me suis promené autour des jardins de Pokrovski, dans l'espoir de voir de loin votre robe blanche. Dans vos promenades imprudentes, je vous suivais, caché dans les broussailles, heureux de penser que pour vous il n'y avait pas de danger là où j'étais secrètement. Enfin, une occasion s'est présentée et je me suis installé dans votre maison. Ces 3 semaines sont pour moi des semaines de bonheur. Leur souvenir sera la consolation de ma triste vie. Aujourd'hui, j'ai reçu la nouvelle qu'il m'est impossible de rester plus longtemps ici. Je vous quitte aujourd'hui, tout de suite. Mais avant, je devais vous découvrir mon secret pour que vous ne me maudissiez pas et pour que vous ne me méprisiez pas. Pensez quelquefois à Dubrovski. Sachez qu'il était né pour une autre condition, que son cœur savait vous aimer, et que jamais... Un fort coup de sifflet se fit alors entendre, et Dubrovski se tut. Il saisit sa main et y appuya ses lèvres brûlantes. Le coup de sifflet se fit de nouveau entendre. « Pardonnez-moi, dit Dubrovski, on m'appelle. Une minute peut me perdre. » Il recula. Marie Kirillovna resta immobile. Dubrovski revint et de nouveau lui prit la main. « Lorsque le malheur vous atteindra, si vous n'avez ni secours ni protection à attendre de qui que ce soit, promettez-moi dans ce cas de vous adresser à moi et d'exiger de moi tout pour votre délivrance. Promettez-vous de ne pas repousser mon dévouement ?» Marie Kirillovna pleurait en silence. Le sifflet se fit entendre une 3e fois. « Vous me perdez ?» s'écria Dubrovski. « Je ne vous quitterai pas tant que vous ne m'aurez pas donné une réponse. Promettez-moi oui ou non. »«
Je promets, » murmura la pauvre fille.
Troublée par ce rendez-vous avec Dubrovski, Marie Kirillovna revint du jardin. Il lui semblait qu'il y avait beaucoup de monde dans la cour. Au perron, il y avait une troïka, des gens couraient de tous côtés, et la maison était sans dessus-dessous. De loin, elle entendit la voix de Cyril Pietrovitch et se dépêcha d'entrer dans la chambre de crainte que son absence ne fût remarquée. Dans le salon, elle rencontra Cyril Pietrovitch. Les invités entouraient le commissaire, notre vieille connaissance, et l'accablaient de questions. Le commissaire, en costume de voyage, armé jusqu'aux dents, répondait avec un air mystérieux et affairé. « Où étais-tu, Macha ?» demanda Cyril Pietrovitch. « As-tu vu Monsieur Desforges ?» Marie put à peine répondre négativement. « Figure-toi, » continua Cyril Pietrovitch, « que le commissaire est venu l'arrêter et il m'affirme que c'est Dubrovski lui-même. Tout le signalement, votre excellence, dit avec respect le commissaire. Ah, mon ami, interrompit Sili Petrovitch, va-t'en. Tu sais où avec ton signalement? Ah non, je ne te livrerai pas mon français, tant je n'aurai pas éclairci l'affaire moi-même. Comment peut-on croire sur parole Antoine Pavlovitch, ce peureux et ce paysan? Il a rêvé que le précepteur voulait le dépouiller. Pourquoi ne m'a-t-il rien soufflé de cela le lendemain matin? Mais le français lui a fait peur, votre excellence, répondit le commissaire, et l'a fait jurer qu'il se tairait. Mensonge, répondit Petrovitch. Tout de suite je vais tirer l'affaire au clair. Où est le précepteur? Demanda-t-il à un domestique qui entrait. On ne le trouve nulle part, répondit le domestique. Alors qu'on le cherche, s'écria Troïkourov, qui commençait à avoir des doutes. Montre-moi ton fameux signalement, dit-il au commissaire, qui tout de suite lui tendit le papier. Ben, 23 ans, etc. Oh, c'est vrai, oh, mais cela ne prouve encore rien. Où est le précepteur? On ne le trouve pas, répondit-on de nouveau. Cyril Pietrovitch commençait à se tourmenter. Marie Kirillovna était plus morte que vive. « Tu es pâle, Macha, remarqua son père. Est-ce qu'on t'a effrayé ?»« Non, petit père, répondit Macha, j'ai mal à la tête. »« Va dans la chambre, Macha, et ne t'inquiète pas. » Marie lui baisa la main et s'en alla vite dans sa chambre. Là, elle se jeta sur son lit et se mit à sangloter dans un accès d'hystérie. Les servantes accoururent, la déshabillèrent de force, la calmèrent avec de l'eau froide et avec toutes sortes d'élixirs. On la coucha et elle s'endormit. Cependant, on ne trouvait pas le français. Cyril Pietrovitch marchait de long en large dans la chambre en sifflant l'air. « Que le bruit de la victoire retentisse !» Les invités chuchotaient entre eux. Le commissaire était tout penaud. On ne trouvait pas le français. Probablement il avait eu le temps de se cacher après avoir été prévenu. Mais par qui et comment? Cela restait secret. 11 heures sonnèrent et personne ne pensait à dormir. Enfin, Sili Pietrovitch dit en colère au commissaire. « Eh bien quoi, tu vas pas rester ici jusqu'au jour? Ma maison n'est pas une auberge. C'est pas avec ton agilité que tu prendras Dubrovski, si c'est lui. » « Allez-vous-en chez vous et une autre fois et soyez plus prompt. Et vous aussi, il est temps d'aller à la maison, » continua-t-il en s'adressant aux invités. « Faites atteler, je veux dormir. » C'est ainsi que Troïkourov prit cavalièrement congé de ses invités. Quelque temps s'était écoulé sans aucun événement important. Mais au commencement de l'été suivant, il y avait eu beaucoup de changements dans la vie de famille de Cyril Pietrovitch. À 13 verstes de lui se trouvait la riche propriété du prince Viereski. Le prince avait habité longtemps l'étranger. La propriété était régie par un major en retraite et il n'existait aucun rapport entre Pokrovski et Arbalov. Mais à la fin de mai, le prince revint de l'étranger et arriva dans sa propriété qu'il n'avait jamais vue. Habitué aux distractions, il ne put supporter cette solitude, et le 3e jour après son retour, il vint dîner chez Troïkourov, qu'il avait connu autrefois. Le prince avait environ 50 ans, mais il paraissait plus âgé. Les excès de toutes sortes avaient affaibli sa santé et avait mis sur lui une empreinte ineffaçable. Malgré cela, son extérieur était agréable, remarquable, et l'habitude qu'il avait d'être toujours en société lui donnait une certaine amabilité, surtout avec les femmes. Il avait un besoin continuel de distraction et s'ennuyait toujours. Cyril Pietrovitch fut excessivement content de sa visite, qu'il regardait comme une marque de respect de la part d'un homme qui connaissait le monde. Selon son habitude, il lui fit les honneurs de ses bâtiments et le conduisit dans son chenil. Mais le prince faillit étouffer dans l'atmosphère empestée des chiens et se dépêcha de sortir en se bouchant le nez avec son mouchoir parfumé. Le jardin à l'ancienne mode, avec les tilleuls taillés, son bassin carré et ses allées régulières, ne lui plurent pas. Il aimait les jardins anglais, ce qu'on appelle la nature, mais il loua et admira tout. Un domestique vint annoncer que le dîner était prêt. Ils allèrent dîner. Le prince boitait un peu, fatigué par sa promenade, et déjà se repentait de sa visite. Mais dans la salle à manger, Marie Kirillovna vint au-devant d'eux, et le vieux galant fut frappé de sa beauté. Troïekourov fit asseoir son hôte à côté d'elle. Le prince, émoustillé par sa présence, fut gai et réussit plusieurs fois à attirer son attention par ses faits curieux. Après le dîner, Rysil Pietrovitch lui proposa de faire une promenade à cheval, mais le prince s'excusa en montrant ses souliers de velours et en plaisantant sur sa goutte. Il proposa de faire la promenade en voiture pour ne pas se séparer de sa gentille interlocutrice. On attela la voiture, les vieux et la jeune beauté s'assirent tous les trois et l'on partit. La conversation ne cessa pas un instant. Marie Kirillovna écoutait avec plaisir les compliments flatteurs et joyeux de l'homme du monde, quand tout à coup, Vieresky, s'adressant à Sili Pietrovitch, lui demanda ce que c'était que cette construction incendiée et si elle lui appartenait. Sili Pietrovitch fronça le sourcil. Les souvenirs qui lui rappelaient cette maison incendiée ne lui étaient pas agréables. Il répondit que la terre était maintenant à lui et qu'auparavant elle appartenait à Dubrovski. « Dubrovski ? » répéta Vereïski. « Comment, à ce célèbre brigand ?»« À son père, » répondit Troïekourov. « Oui, son père était aussi un brigand. » « Et où est donc notre Rinaldo? Est-il pris? Est-il vivant ?»« Il est vivant et libre. »« À propos, prince, Dubrovski a été chez toi... »« Oui, l'année dernière, il a, je crois, brûlé quelque chose ou pillé. »« N'est-il pas vrai, Marie Kirillovna, qu'il serait curieux de faire plus ample connaissance avec ce héros romanesque ?»« Qu'y a-t-il de curieux ?» dit Troïekourov. Elle le connaît. Il m'a donné des leçons de musique pendant 3 semaines. Et Dieu merci, il s'est pas fait payer les leçons. Alors, Sili Pietrovitch se mit à raconter le récit de son faux français précepteur. Marie Kirillovna était au supplice. Vereïski, après avoir écouté avec une profonde attention, trouva cela très étrange et changea de conversation. En rentrant, il ordonna de faire avancer sa voiture, et malgré les prières réitérées de Sili Pietrovitch, qui lui disait de passer la nuit chez lui, il partit tout de suite après le thé, mais cependant auparavant, il invita Sili Pietrovitch à venir lui rendre visite avec Marie Kirillovna, et l'orgueilleux Troïekourov promit, car eu égard au titre de prince à ses 2 décorations, et aux 3 000 serfs de sa propriété personnelle, paternelle, il regardait jusqu'à un certain point le prince comme son égal. 2 jours après sa visite, Sili Pietrovitch partit en visite avec sa fille chez le prince Vereïski. En arrivant à Arbatov, il ne put s'empêcher d'admirer les maisons gaies et propres de paysans et la maison seigneuriale en pierre, construite dans le goût des châteaux anglais. Devant la maison s'étalait une prairie verte et épaisse dans laquelle paissaient des vaches suisses dont les clochettes tintaient. Un grand parc entourait la maison de tous côtés. L'amphitryon vint au-devant de ses invités sur le perron et tendit la main à la jeune beauté. Elle entra dans une magnifique salle dans laquelle une table à trois couverts était servie. Le prince conduisit ses invités à la fenêtre et devant eux s'ouvrit un magnifique panorama. Devant les fenêtres coulait la Volga, sur laquelle passaient des barques chargées aux voiles enflées et descendaient des bateaux de pêche. Derrière le fleuve s'étendaient des collines et des champs. Quelques villages égayaient le paysage. Puis ils examinèrent la galerie de tableaux achetés par le prince à l'étranger. Le prince expliqua à Marie Kirillovna leurs diverses qualités, leurs sujets ainsi que l'histoire des peintres, et fit remarquer leurs qualités et leurs défauts. Il parla des tableaux, non pas dans le langage pédant et convenu des connaisseurs, mais avec sentiment et imagination. Marie Kirillovna l'écoutait avec plaisir. Ils se mirent à table. Trekurov rendit toute justice au vin de son amphitryon et au talent de son cuisinier. Marie Kirillovna ne sentait ni la moindre confusion ni le moindre trouble en conversant avec cet homme qu'elle voyait pour la deuxième fois. Après le dîner, l'amphitryon proposa à ses invités de venir au jardin. Ils burent le café dans le kiosque au bord du large lac parsemé d'îles. Tout à coup, un orchestre se fit entendre et un bateau à six rames s'avança jusqu'au kiosque. Ils se promenèrent sur le lac autour des îles, dont ils visitèrent quelques-unes. Sur l'une, ils trouvèrent une statue de marbre, sur l'autre une caverne isolée, sur la troisième un monument avec une inscription mystérieuse qui piqua la curiosité féminine de Marie Kirillovna, non entièrement satisfaite des réticences polies du prince. Le temps passa inaperçu. Il commença à faire nuit. Le prince, sous prétexte de la fraîcheur et du serein, se dépêcha de rentrer à la maison. Le samovar les attendait. Le prince pria Marie Kirillovna de faire les honneurs dans sa maison de vieux garçon. Elle versa le thé tout en écoutant les récits inépuisables de l'aimable conteur. Tout à coup, un coup partit et une raquette éclaira le ciel. Le prince présenta un châle à Marie Kirillovna et l'invita avec Troyekurov à venir sur le balcon. Devant la maison, dans l'obscurité, des feux de couleurs différentes s'allumèrent, se mirent à tourner, s'élevèrent en l'air en gerbes, se mirent à couler en fontaines, à tomber en pluie d'étoiles, s'éteignant et se rallumant de nouveau. Marie Kirillovna était gaie comme un enfant. Le prince Verelsky était joyeux de son ravissement et Troyekurov était excessivement content de lui car il regardait tous les frais du prince comme une marque de respect et du désir qu'il avait de lui plaire. Le souper, dans son ordonnance, ne le céda en rien au dîner. Les invités se rendirent dans les chambres préparées pour eux et le lendemain matin quittèrent leur aimable amphitryon après lui avoir donné la promesse de revenir le voir bientôt. Marie Kirillovna était assise dans sa chambre et faisait de la tapisserie au métier devant la fenêtre ouverte. Elle ne mélangeait pas les soies comme l'amante de Conrad qui, dans sa distraction amoureuse, avait brodé une rose en soie verte. Sous son aiguille, le canevas répétait sans toute erreur les dessins de l'original, mais malgré cela, ses idées ne suivaient pas son travail. Elles étaient loin. Tout à coup, une main se tendit par la fenêtre. Quelqu'un posa sur le métier une lettre et disparut avant que Marie Kirillovna ait eu le temps de comprendre. À ce moment même, un domestique vint à elle et la pria d'aller trouver Cyril Pietrovitch. Toute tremblante, elle cacha la lettre sous son fichu et se hâta d'aller voir son père dans son cabinet. Cyril Pietrovitch n'était pas seul. Le prince Verelsky était assis à côté de lui.
Quand Marie Kirillovna parut, le prince se leva et la salua en silence avec un sentiment de trouble nouveau pour lui.
« Viens ici, Macha, » dit Siri Pietrovitch. « Je vais te dire une nouvelle qui, j'espère, te réjouira. Voilà ton fiancé, le prince demande ta main. »
Macha resta stupéfaite. Une pâleur mortelle couvrit son visage. Elle se tut. Le prince s'approcha d'elle, prit sa main et avec émotion lui demanda si elle consentait à faire son bonheur. Macha se taisait.
Elle consent, certainement, elle consent, dit Siri Petrovitch. Mais tu sais, prince, qu'il est difficile à une jeune fille de dire ce mot. Eh bien, enfin, embrassez-vous et soyez heureux.
Macha restait immobile. Le vieux prince lui baisa la main, et tout à coup les larmes coulèrent sur son pâle visage. Le prince fronça les sourcils légèrement.
Va, va, s'écria Siri Petrovitch. Sèche tes pleurs et reviens-nous gai. Toutes elles pleurent aux fiançailles, continua-t-il en s'adressant à Vereski. C'est leur habitude. Maintenant, les princes, parlons de l'affaire, c'est-à-dire de la dot.
Marie Kirillovna profita avec empressement de la permission de se retirer. Elle courut dans sa chambre, s'y enferma et donna libre cours à ses larmes, à la pensée de devenir la femme du vieux prince. Il lui parut tout à coup repoussant et odieux. Le mariage lui faisait peur, c'était pour elle l'échafaud, le tombeau.
« Non, 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 répétait-elle au désespoir, plutôt le couvent, j'épouserai plutôt Dubrovski. »
Et à ce moment, elle se souvint de sa lettre et se mit à le lire, avec rapidité pressentant qu'elle était de lui. En effet, elle était écrite par lui et contenait seulement les mots suivants « Ce soir à 10 heures à la place habituelle. La lune brillait, la nuit dans la campagne était tranquille. De temps à autre, un zéphyr s'élevait et un doux frémissement parcourait tout le jardin. Comme une ombre légère, la jeune beauté s'avançait vers le lieu du rendez-vous. On ne voyait encore personne. Tout à coup, de derrière le kiosque, Dubrovski sortit et apparut devant elle.
« Je sais tout, lui dit-il d'une voix douce et triste. « Rappelez-vous votre promesse. Vous me proposez votre protection, répondit Marie, mais ne vous fâchez pas, elle m'effraie. De quelle manière me porterez-vous secours ?
Je pourrais vous débarrasser de l'homme que vous haïssez.
Oh, pour l'amour de Dieu, ne le touchez pas. N'osez pas le toucher, si vous m'aimez. Je ne veux pas être la cause d'une horreur quelconque.
Mais je ne le toucherai pas. Votre désir est sacré pour moi. Il vous doit la vie. Jamais il ne sera commis de crime en votre nom. Vous devez être pur même au milieu de mes crimes. Mais comment vous sauverai-je de votre cruel père ?
Il y a encore un espoir. J'espère le toucher par mes larmes et mon désespoir. Il est têtu, mais il m'aime tant.
Oh, n'espérez pas en vain. Dans ses pleurs, il ne verra que la crainte et le dégoût habituels aux jeunes filles qui se marient non par amour mais par calcul prudent. Mais s'il lui prend l'idée de faire votre bonheur malgré vous-même, et si pour toujours l'on vous force à vous marier pour livrer votre sort aux mains d'un mari infirme,
alors il n'y aura rien d'autre à faire. Venez me chercher, je serai votre femme. »
Dubrovski tressaillit. Son pâle visage se couvrit d'une rougeur pourprée et aussitôt devint plus pâle qu'auparavant. Il se tut longtemps en baissant la tête. «
Prenez votre courage à deux mains, implorez votre père, jetez-vous à ses pieds. Présentez-lui toute l'horreur de l'avenir, votre jeunesse flétrie auprès d'un vieillard faible et dépravé. » Dites-lui que la richesse ne vous donnera pas une minute de bonheur. Le faste peut consoler de la pauvreté,
mais seulement pour un moment, par suite de la nouveauté. Ne le laissez pas en repos. N'ayez peur ni de sa colère, ni de ses menaces, tant qu'il vous restera une ombre d'espoir. Pour l'amour de Dieu, ne quittez pas la partie. Et s'il ne vous reste plus d'autres moyens, prenez la résolution d'une cruelle explication. Dites-lui que s'il reste inexorable, alors vous trouverez un terrible défenseur. » À ce moment, Dubrovski se couvrit le visage de ses mains. Il paraissait suffoqué. Masha pleurait. « Que mon sort est malheureux !» dit-elle en soupirant amèrement. « Pour vous, j'aurais donné ma vie. Pouvoir de loin toucher votre main, c'était pour moi une ivresse. Et quand pour moi s'offre l'occasion de vous presser sur mon cœur ému et de vous dire « Je suis à toi pour la vie, pauvre que je suis, je dois fuir le bonheur, je dois le repousser de toutes mes forces. » Je n'ose pas tomber à vos pieds et remercier le ciel de sa récompense, incompréhensible mais imméritée. Oh, comme je dois haïr celui, mais je sens que maintenant dans mon cœur, il n'y a pas de place pour la haine. » Il serra doucement dans ses bras sa taille élancée et l'attira doucement sur son cœur. Avec confiance, elle pencha la tête sur l'épaule du jeune brigand. Tous deux se taisaient. Le temps fuyait. « Il est temps !» dit enfin Masha. Dubrovski parut sortir d'un profond sommeil. Il prit sa main et lui mit un anneau au doigt. « Si vous vous décidez à avoir recours à moi, dit-il, apportez cet anneau ici et laissez-le tomber dans le creux de ce chêne. Je saurai ce que j'ai à faire. » Dubrovski lui baisa la main et disparut derrière les arbres. Les fiançailles du prince Vilievski n'étaient plus un secret pour les voisins. Cyril Pietrovitch recevait les félicitations à cette occasion. Le mariage se préparait. Masha reculait de jour en jour l'explication décisive. Cependant, ses rapports avec son vieux fiancé étaient froids et tendus. Le prince ne s'en préoccupait pas. Il ne sollicitait pas son amour, content de son consentement tacite. Mais le temps s'écoula. Enfin, Masha résolut d'agir et écrivit une lettre au prince Vierski. Elle s'efforça d'éveiller en lui des sentiments magnanimes et lui avoua franchement qu'elle n'avait pas pour lui le moindre attachement. Le supplia de refuser sa main et de la protéger lui-même contre le pouvoir paternel. Elle remit en secret sa lettre au prince Vierski. Celui-ci la lut à l'écart et ne fut pas du tout touché par la franchise de sa fiancée. Au contraire, il vit la nécessité de précipiter le mariage et pour cela il jugea nécessaire de montrer la lettre à son futur beau-père. Cyril Pietrovitch entra en fureur. Le prince, avec peine, le convainquit de ne pas laisser voir à Marie qu'il était prévenu de la lettre. Cyril Pietrovitch consentit à ne pas lui en parler, mais résolut de ne pas perdre de temps et fixa la noce pour le lendemain. Le prince trouva cela très prudent, alla trouver sa fiancée et lui dit que sa lettre l'avait fort attristé, mais qu'il espérait, avec le temps, mériter son attachement, que l'idée de se séparer d'elle lui était trop pénible et qu'il n'avait pas la force de consentir à sa condamnation à mort. Puis il lui baisa la main avec respect et partit sans lui avoir dit un seul mot de la décision de Cyril Pietrovitch. Mais à peine était-il parti que son père entra et lui ordonna tout net d'être prête pour le lendemain. Marie Kirillovna, déjà émue par l'explication avec le prince Vereïski, fondit en larmes et se jeta aux pieds de son père. « Petit père, s'écria-t-elle d'une voix plaintive, petit père, ne me perdez pas, je n'aime pas le prince, je ne veux pas être sa femme. » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » dit sévèrement Cyril Pietrovitch.
Jusqu'à présent, tu te taisais et tu consentais. Et maintenant, quand tout est décidé, tu t'es mis dans la tête de faire des caprices et de refuser. Allez, ne fais pas de folie. De cette manière, tu ne gagneras rien avec moi.
Ne me perdez pas, répondit la pauvre Macha. Pourquoi me chassez-vous loin de vous et me livrez-vous à un homme que je n'aime pas? Est-ce que je vous suis à charge? Je veux rester avec vous comme auparavant. Cher père, vous serez triste sans moi, et plus triste encore quand vous penserez que je suis malheureuse. Petit père, ne me forcez pas, je ne veux pas me marier.
Cyril Pietrovitch fut touché, mais il cacha son trouble et la repoussa en lui disant sévèrement « Bon, tout cela, ce sont des sordettes, entends-tu? Je sais mieux que toi ce qu'il te faut pour ton bonheur. Tes pleurs ne te déteindront pas. Ton mariage aura lieu après-demain. »
« Après-demain ? » s'écria Macha. « Mon Dieu, non, 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 c'est impossible. Cela ne sera pas, cher père. Écoutez, si vous êtes résolu à me perdre, je trouverai un défenseur auquel vous ne pensez pas. Vous verrez, vous serez effrayé de ce que vous m'aurez contrainte de faire. »
« Quoi, quoi ? » dit Troïoulkov. « Des menaces ? Des menaces à moi, insolente fillette ? Sais-tu que je ferai de toi ce à quoi tu ne penses pas ? Tu oses me menacer, friponne ? Ah, nous verrons quel sera ce défenseur. »
« Vladimir Dubrovski, » répondit Macha au désespoir.
Cyril Pietrovitch pensa qu'elle était devenue folle et la regarda avec étonnement. « Bien, lui dit-il après un silence, attends qui tu voudras comme sauveur, mais pour le moment, reste dans ta chambre et tu n'en sentiras que pour la noce. » À ces mots, Cyril Pietrovitch sortit et ferma la porte derrière lui. La pauvre jeune fille pleura longtemps, se représentant tout ce qu'il attendait. Mais l'explication violente avait déchargé son cœur, et elle put plus tranquillement penser à son sort et à ce qu'il fallait faire. Le principal pour elle était de se débarrasser du mariage qu'elle ne pouvait pas souffrir. Le sort de la femme de bandit lui paraissait être le paradis auprès du sort qu'on lui fixait. Elle regarda la bague que lui avait laissée Dubrovski. Elle désirait ardemment le voir en tête à tête, et encore une fois avant le moment décisif, se consulter avec lui longuement. Un pressentiment lui disait que le soir, elle trouvait Dubrovski au jardin près du kiosque. Elle résolut d'aller l'y attendre. Aussitôt qu'il commença à faire nuit, Macha fit ses préparatifs, mais sa porte était fermée à clé. La femme de chambre lui répondit derrière la porte que Cyril Pietrovitch avait ordonné de ne pas la laisser sortir. Elle était aux arrêts. Profondément offensée, elle s'assit près de la fenêtre et y resta jusqu'à la nuit profonde, sans se déshabiller et regardant immobile le ciel sombre. Au point du jour, elle s'endormit, mais son léger sommeil fut alarmé par des visions tristes et les rayons du soleil levant la réveillèrent. Elle s'éveilla et sa première pensée fut toute l'horreur de sa situation. Elle sonna la femme de chambre, entra et à ses questions elle répondit que Cyril Pietrovitch était parti le soir à X et était revenu tard, qu'il avait donné l'ordre formel de ne pas la laisser sortir de sa chambre et de surveiller que personne ne parlât avec elle, que d'ailleurs on ne voyait aucun préparatif spécial pour la noce, sauf qu'il avait été ordonné au pope de ne quitter le village sous aucun prétexte. Après ces nouvelles, la femme de chambre quitta Maria Kirillovna et de nouveau ferma la porte à clé. Ces paroles avaient exaspéré la jeune prisonnière. Sa tête bouillait, son sang s'agitait. Elle résolut de faire tout savoir à Dubrovski et se mit à chercher un moyen de faire porter l'anneau dans le creux du vieux chêne. À ce moment, un caillou frappa sa fenêtre. La vitre résonna.
Marie Kirillovna regarda dans la cour et vit le petit Sacha qui lui faisait des signes. Elle connaissait l'attachement qu'il avait pour elle et en fut réjouie. Elle ouvrit la fenêtre. « Bonjour, Sacha, pourquoi m'appelles-tu ? » « Je suis venue, petite sœur, pour savoir si vous n'avez pas besoin de quelque chose. Papa est fâché, il a défendu à toute la maison de vous obéir. Mais ordonnez-moi de faire ce que vous désirez, et pour vous, je ferai tout. »« Merci, mon cher Sacha. » »« Écoute, tu connais le vieux chêne creux qui est près du kiosque ?»« Je le connais, petite sœur. » »« Eh bien, si tu m'aimes, cours-y vite. » Et mets cette bague dans le creux. Mais regarde bien que personne ne te voit. »
À ces mots, elle lui jeta la bague et ferma la fenêtre. Le petit garçon ramassa la bague, s'élança à toutes jambes et en 3 minutes fut auprès du vieil arbre. Là, il s'arrêta essoufflé, regarda de tous côtés et posa l'anneau dans le creux. Ayant terminé son affaire sans encombre, il voulait tout de suite revenir en informer Maria Kirillovna, quand tout à coup un gamin roux et en haillons s'élança de derrière le kiosque vers le chêne et enfonça la main dans le creux. Sacha, plus rapide qu'un écureuil, s'élança sur lui et le saisit de deux mains. « Mais que fais-tu là ? » lui demanda-t-il sévèrement. « C'est pas trop d'affaires. » répondit le gamin tout en s'efforçant de se débarrasser de lui. « Laisse cette bague, Rousseau !» lui cria Sacha, « ou je te ferai ton affaire !» Pour toute réponse, celui-ci lui donna un coup de poing en pleine figure, mais Sacha ne le lâcha pas et cria de toutes ses forces, « au voleur, ici, par ici !» Le gamin faisait tous ses efforts pour se débarrasser de lui. Il était visiblement plus âgé que Sacha de 2 ans et beaucoup plus fort que lui. Mais Sacha était plus adroit. Ils luttèrent quelques minutes. Enfin, le Rousseau prit le dessus, il renversa Sacha par terre et le saisit dans la gorge. Mais à ce moment, une main forte saisit ses cheveux roux hérissés et le jardinier Étienne le souleva à 1 mètre de terre. « Ah, bête rousse !» fit le jardinier. « Comment oses-tu battre le petit monsieur ?» Sacha réussit à se relever et à réparer son désordre. « Tu m'as saisi sous le bras, dit-il, sans quoi tu m'auras jamais renversé. Allez, rends tout de suite la bague et va-t'en. »« Comment ?» répondit le Rousseau. Et tout à coup, tournant sur place, il délivra ses cheveux hérissés de la main d'Étienne. Il se mit à courir, mais Sacha le rattrapa, le poussa dans le dos, et le gamin tomba tout son long. Le jardinier le saisit de nouveau et l'attacha avec sa ceinture. « Prends la bague !» s'écria Sacha. « Attends, maître, dit Étienne, nous allons le conduire à l'intendant pour qu'il le châtie. » Le jardinier conduisit son prisonnier à la maison seigneuriale, mais Sacha l'accompagnait tout inquiet, en regardant son pantalon déchiré et taché de vert par l'herbe. Tout à coup, tous trois se trouvèrent devant Cyril Pietrovitch, qui allait regarder son écurie. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il à Étienne. Étienne, en quelques mots, décrivit tout l'accident. Cyril Pietrovitch l'écouta avec attention. « Mais toi, polisson, dit-il en s'adressant à Sacha, pourquoi t'es-tu commis avec lui ? Il a volé la bague dans le creux de l'arbre, papa. Ordonnez-lui de la rendre. » « Quelle bague dans quel creux d'arbre ? » « Oui, Marie Kirillovna m'avait... mais la bague... » Sacha devint confus, se troubla. Cyril Pietrovitch fronça le sourcil et dit en branlant la tête... « Dans cette affaire, Marie Kirillovna est mêlée. Avoue-moi tout, ou je te fouetterai de venger si bien que tu ne me reconnaîtras personne. »« La vérité, papa, je... papa, Marie Kirillovna m'a rien ordonné, papa. »
Étienne, va me couper une belle verge fraîche en rouleau.
Papa, attendez, je vais vous raconter tout. Ma sœur Marie Kirovna m'a ordonné de courir au chêne et de mettre la bague dans le creux. J'ai couru et j'ai placé la bague, puis ce méchant garçon.
Cyril Pietrovitch se tourna vers le méchant garçon et lui demanda avec sévérité :
Au service de qui es-tu ?
Je suis au service de M. Dubrovski, répondit-il. Le visage de Cyril Pietrovitch se rembrunit.
Je crois que tu ne me reconnais pas comme maître ici. Bien. Et que faisais-tu dans mon jardin ?
Je volais des framboises.
Ha ha ! Tel maître, tel valet. Et les framboises chez moi poussent sur les chênes ? Où as-tu vu cela ?
Le garçon ne répondit rien.
Papa, donnez-lui l'ordre de rendre la bague, dit Sacha.
Tais-toi, Alexandre, répondit Cyril Pietrovitch. N'oublie pas que je vais te régler ton affaire. Va-t'en dans ta chambre. Et toi, loucheur, tu me fais l'effet d'un gaillard qui n'est pas un niais. Si tu m'avoues tout, je ne te donnerai pas le fouet, même je te donnerai 5 copecks pour acheter des noix. Allez, rends la bague et va-t'en.
Le gamin ouvrit les mains et montra qu'il n'avait rien.
Je vais faire de toi ce que tu n'attends pas. Eh bien !
Le gamin ne répondit pas un mot, et restant debout, la tête baissée, il prit l'air d'un véritable imbécile.
Bien, dit Cyril Pietrovitch, enfermez-le quelque part, et verrez qu'il ne se fauve pas, ou bien je vous écorche tout vif.
Étienne conduisit le gamin dans le colombier, l'y enferma, et confia à la fille de basse-cour, Agathe, le soin de le surveiller. Il n'y a plus le moindre doute. Elle a conservé des relations avec ce maudit Dubrovski.
Est-ce possible qu'elle l'ait appelé à son aide ?
Pensait Cyril Pietrovitch en marchant dans la chambre, sifflant de colère.
Que le bruit de la victoire se répande. Au moins, je suis tombé sur ses traces. Oh, il nous échappera pas. Nous profiterons de cette occasion.
Ah ! Une clochette, Dieu merci, c'est le commissaire.
Qu'on m'amène ici le gamin qu'on a pris.
À ce moment, une carriole arriva dans la cour, et le commissaire, que nous connaissons, entra dans la chambre tout couvert de poussière.
Bonne nouvelle, dit Cyril Pietrovitch, j'ai pris Dubrovski.
Dieu merci, votre excellence, dit le commissaire avec l'air réjoui. Où est-il ?
C'est-à-dire pas Dubrovski, mais un de sa bande. On va l'amener tout de suite. Il nous aidera à attraper son chef. Le voilà, on l'amène.
Le commissaire, qui s'attendait à voir un terrible brigand, fut étonné en voyant un gamin de 13 ans d'assez faible constitution. Tout perplexe, il s'adressa à Cyril Pietrovitch et attendit une explication. Cyril Pietrovitch se mit à raconter l'incident du matin, sans faire allusion cependant à Marie Krylovna. Le commissaire l'écoutait attentivement, regardant par instant le jeune gredin, qui, contrefaisant l'imbécile, paraissait ne faire aucune attention à tout ce qui se passait autour de lui.
« Permettez, votre excellence, que je vous parle en tête à tête, » dit enfin le commissaire.
Cyril Pietrovitch le conduisit dans une autre chambre et ferma la porte derrière lui. Une demi-heure après, ils revinrent dans le salon où le prisonnier attendait la décision sur son sort.
« Monsieur voulait, lui dit le commissaire, t'enfermer dans la prison municipale, te faire fouetter de verges et t'envoyer ensuite en Sibérie, mais j'ai pris ta défense et j'ai obtenu ton pardon. Détachez-le. »
On détacha le gamin.
« Remercie, monsieur, lui dit le commissaire. »
Le gamin s'approcha de Cyril Pietrovitch et lui embrassa la main.
« Va-t'en à la maison, lui dit Cyril Pietrovitch, et à l'avenir, ne vole plus les framboises dans le creux des arbres. »
Le gamin sortit, sauta gaiement du perron, et sans regarder derrière lui, se mit à courir à travers les champs dans la direction de Kistenovka. Arrivé au village, il s'arrêta à une chaumière presque en ruine, la première au coin, et frappa à la fenêtre. Celle-ci s'ouvrit et une vieille apparut.
« Grand-mère, du pain !» dit le gamin. « J'ai rien mangé depuis le matin, je meurs de faim. »«
Ah, c'est toi, Mitya! Qu'est-ce que t'es donc devenu, petit démon ?» lui répondit la vieille.
« Moi, je t'ai rencontré après, grand-mère, pour l'amour de Dieu, du pain. »«
Entre donc dans la chaumière. »«
J'ai pas le temps, grand-mère, je vais courir à un endroit. »« Du pain, pour l'amour de Dieu, du pain. »
« Quel turbulent !» murmura la vieille. « Tiens, un morceau !» Et elle lui tendit un morceau de pain noir par la fenêtre. Le gamin y mordit avidement et tout en mangeant se rendit plus loin au pas. Il commençait à faire nuit. Mitya traversait les granges et les jardins potagers pour se rendre à la forêt de Kistinovka. Arrivé à deux pins qui étaient comme les gardiens de la forêt, il s'arrêta, regarda tout autour de lui, lança un coup de sifflet perçant et saccadé, et écouta. Un léger, prolongé coup de sifflet se fit entendre en réponse. Quelqu'un sortit de la forêt et s'avança vers lui. Tsili Pietrovitch marchait de long en large dans son salon et, plus fort que d'habitude, sifflait son air favori. Toute la maison était en mouvement. Les domestiques couraient, les femmes de chambre étaient affairées. Dans la remise, les cochers attelaient la calèche. Dans la cour, le peuple faisait foule. Dans le cabinet de toilette de la jeune fille, devant le miroir, une dame entourée de servantes ornait Marie Kirillovna, pâle et immobile. Sa tête était langoureusement inclinée sous le poids de brillants. Elle frissonnait légèrement, quand la main maladroite la piquait, mais elle se taisait en regardant dans le miroir d'un air stupide. « Est-ce bientôt fini ?» demanda à la porte la voix de Cyril Pietrovitch. « Tout de suite !» répondit la dame. « Marie Kirillovna, levez-vous, regardez si c'est bien !» Marie Kirillovna se leva et ne répondit rien. Les portes s'ouvrirent.
La fiancée est prête, dit la dame à Cyril Pietrovitch. Donnez l'ordre de faire avancer la calèche.
Que Dieu te protège, répondit Cyril Pietrovitch en prenant l'image sainte qui était sur la table.
Avance avec moi, Batcha, lui dit-il d'une voix émue. Je te bénis.
La pauvre jeune fille tomba à ses pieds et se mit à sangloter. «
Papa, papa » dit-elle en pleurs,
et sa voix étouffait. Cyril Pietrovitch se dépêcha de la bénir, on la souleva et on la porta presque jusqu'à la calèche. À côté d'elle s'assit la mère par procuration et une des servantes. Elles allèrent à l'église. Là, le fiancé les attendait déjà. Il sortit à la rencontre de sa fiancée et fut frappé de sa pâleur et de son étrange aspect. Ils entrèrent ensemble dans l'église froide et vide. Derrière eux, on ferma les portes. Le prêtre s'avança en avant de l'autel et commença. Marie Kirillovna ne voyait rien, n'entendait rien. Elle pensait à la même idée depuis le matin. Elle attendait Dubrovski. L'espoir ne la quittait pas une minute. Mais quand le prêtre lui adressa la question habituelle, elle tressaillit et perdit connaissance. Cependant, elle hésitait encore, elle attendait. Le prêtre, sans attendre sa réponse, prononça les paroles irrévocables. La cérémonie était terminée. Elle sentit le froid baiser de son désagréable mari. Elle entendit les flatteuses félicitations des assistants, et cependant ne pouvait pas encore croire que sa vie était rivée pour toujours et que Dubrovski ne viendrait pas la délivrer. Le prince lui adressa des paroles aimables. Elle ne les comprit pas. Ils sortirent de l'église. Sur le parvis, les paysans de Polkovski étaient groupés. Son regard les parcourut vivement, et de nouveau elle montra la présente cédante insensibilité. Les jeunes mariés s'assirent ensemble dans la calèche et partirent pour où déjà s'était rendu Cyril Pietrovitch pour les recevoir. En tête à tête avec sa jeune femme, le prince ne fut pas peu troublé par son air froid. Il ne se mit pas à l'ennuyer par des explications fades et par un enthousiasme ridicule. Ses paroles étaient simples et n'exigeaient pas de réponse. C'est de la sorte qu'ils parcoururent environ 10 verstes. Les chevaux passaient vivement sur les mottes de terre du chemin vicinal et la calèche se cahotait presque pas sur ses ressorts anglais. Tout à coup, on entendit des cris. La calèche s'arrêta et une troupe de gens armés l'entoura. Un homme masqué ouvrit la portière du côté où elle était assise la jeune princesse, et lui dit « Vous êtes libre, sortez » « Qu'est-ce que cela veut dire ?» s'écria le prince. « Qui es-tu » « C'est Dubrovski, » répondit la princesse. Et le prince, sans perdre en présence d'esprit, sortit de sa poche de côté un pistolet de voyage et tira sur le brigand masqué. La princesse cria et avec terreur se couvrit le visage de ses deux mains. Dubrovski fut blessé à l'épaule, le sang coulait. Le prince, sans perdre une minute, sortit un autre pistolet. Mais on ne lui donna pas le temps de tirer. La portière s'ouvrit, et quelques puissantes mains le sortirent de voiture et saisirent le pistolet. Au-dessus de sa tête brillèrent des poignards. « Ne le touchez pas !» s'écria Dubrovski, et ses sombres complices reculèrent. « Vous êtes libre, » continua Dubrovski, en s'adressant à la pâle princesse. « Non, » répondit-elle trop tard, « je suis mariée, je suis la femme du prince Verejski. »« Que dites-vous ? » s'écria Dubrovski au désespoir. « Non, oh, vous n'êtes pas sa femme, vous avez été contrainte, vous n'avez jamais pu consentir. »«
J'ai consenti, j'ai promis, » répliqua-t-elle avec fermeté. Le prince est mon mari. Donnez l'ordre de le délivrer et laissez-moi avec lui. Je ne vous ai pas trompé. Je vous ai attendu jusqu'à la dernière minute, mais maintenant, je vous le dis, il est trop tard. Laissez-nous partir.
Mais Dubrovski ne l'entendait plus. Le mal que lui causait sa blessure et les fortes émotions le privaient de sa force. Il tomba à côté de la roue. Les brigands l'entourèrent. Il eut le temps de leur dire quelques mots. Ils le mirent à cheval, deux d'entre eux le soutenaient. Le troisième prit la bride du cheval et tous s'en allèrent d'un autre côté, laissant la calèche au milieu de la route, les gens attachés, les chevaux dételés, mais sans rien prendre et sans avoir répandu une seule goutte de sang, pour venger leur chef. Au milieu d'une forêt épaisse, dans une étroite clairière, s'élevait une petite fortification en terre, composée d'un fossé et d'un rempart derrière lesquels se trouvaient quelques huttes et baraques. Dans la cour, il y avait une quantité de gens que, d'après leurs coutumes différents et d'après leur armement, on pouvait prendre pour des brigands. Il dînait assis en chapeau autour du chaudron fraternel. Sur le rempart, à côté d'un petit canon, était une sentinelle assise à la turque. Ce brigand mettait une pièce à l'un de ses vêtements, maniant l'aiguille avec une adresse qui indiquait un tailleur habile, et de temps à autre regardait de tous les côtés. Bien que la cuillère passât plusieurs fois de main en main, un étrange silence régnait dans cette troupe. Les brigands finirent de dîner. L'un après l'autre, ils se levèrent et firent leurs prières. Quelques-uns se retirèrent dans les huttes et les autres se répandirent dans la forêt ou s'allongèrent pour faire un somme, suivant la coutume russe. La sentinelle termina son travail, secoua ses fourrures, admira sa pièce, piqua son aiguille sur la manche, s'assit à cheval sur le canon et se mit à chanter à tue-tête la vieille chanson mélancolique « Ne fais pas un bruit, forêt verte, notre mère nourricière !» À ce moment, la porte d'une des huttes s'ouvrit et une vieille en bonnet blanc, habillée proprement et avec affectation, se montra sur le seuil.
« Assez, Étienne !» lui dit-elle en colère. « Le maître se repose et tu cries à gorge déployée. Vous n'avez ni conscience ni pitié. »
« Pardon, Petrovna, répondit Étienne, c'est bien, je chanterai plus, que notre patron se repose et se guérisse. »
La vieille s'en alla, Étienne se mit à se promener sur le rempart.
Dans la hutte d'où était sortie la vieille, Dubrovski, blessé, reposait sur un lit de camp derrière un rideau. Devant lui, sur un guéridon, étaient ses pistolets et son sabre était pendu au-dessus de sa tête. La hutte était ornée de riches tapis. Dans un coin, il y avait une toilette de femme en argent et un trumeau. Dubrovski tenait à la main un livre ouvert, mais ses yeux étaient fermés, et la vieille, qui l'avait regardé de derrière le rideau, ne pouvait pas savoir s'il était endormi ou s'il était seulement plongé dans ses réflexions. Tout à coup, Dubrovski tressaillit. Dans la forteresse, l'alarme était donnée et Étienne passa sa tête par la fenêtre.
« Maître, Vladimir Andreïevitch !» s'écria-t-il. « Les nôtres font signe qu'on nous cherche. »
Dubrovski sauta à bas du lit, saisit son fusil et sortit de la hutte. Les brigands à grand bruit se réunissaient dans la cour. À son apparition, il se fit un profond silence.
« Tout le monde est-il là ?» demanda Dubrovski. « Oui, tous sont là, sauf les guetteurs, » répondit-on.
« À vos places !» cria Dubrovski. Et chaque brigand se mit à son poste. À ce moment, trois guetteurs accoururent aux portes. Dubrovski alla à leur rencontre.
« Qu'est-ce ? » demanda-t-il. « Il y a des soldats dans la forêt, » répondit-il. « On nous cerne. »
Dubrovski ordonna de fermer les portes et lui-même alla examiner le canon. Dans la forêt, on entendait quelques voix qui s'approchaient. Les brigands attendaient en silence. Tout à coup, trois ou quatre soldats sortirent de la forêt et tout de suite se retirèrent en tirant des coups de feu pour prévenir leurs camarades.
« Préparez-vous au combat !» dit Dubrovski.
Et parmi les brigands, le bruit recommença, puis de nouveau se tut. Alors, on entendit le bruit du détachement qui avançait. Les fusils brillaient entre les arbres. Environ 150 soldats sortirent de la forêt et se lancèrent sur le retranchement en criant. Dubrovski approcha la mèche. Le coup fut heureux. Il enleva la tête à un soldat et en blessa deux autres. Les soldats se troublèrent. Mais l'officier s'élança en avant. Les soldats le suivirent et coururent au fossé. Les brigands tiraient sur eux des coups de fusil et de pistolet et défendaient, la hache à la main, le rempart sur lequel montaient les soldats furieux d'avoir laissé 20 de leurs camarades blessés dans le fossé. Un combat à corps commença. Les soldats étaient déjà sur le rempart, les brigands commençaient à reculer. Mais Dubrovski s'approcha de l'officier, le visa à la poitrine et fit feu. L'officier tomba à la renverse. Plusieurs soldats le saisirent dans leurs bras et l'empressèrent de l'emporter dans la forêt. Les autres, privés de chef, s'arrêtèrent. Les brigands, encouragés, profitèrent du trouble de cette minute les attaquèrent et les repoussèrent dans le fossé. Les assiégeants prirent la fuite. Les brigands les pourchassèrent en criant. La victoire fut décisive. Dubrovski, convaincu de la destruction complète de l'ennemi, les arrêta, s'enferma dans la forteresse, doubla les sentinelles, interdit à quiconque de s'éloigner et ordonna de recueillir les blessés. Ces divers incidents attirèrent l'attention du gouvernement sur les audacieux brigandages de Dubrovski. Des renseignements furent réunis sur son repère. Une compagnie de soldats fut envoyée pour le prendre mort ou vif. On saisit plusieurs hommes de sa bande et on apprit par eux qu'il n'était déjà plus parmi eux. Plusieurs jours après, il réunit ses complices, leur annonça qu'il était décidé à les quitter pour toujours et leur conseilla de changer leur genre de vie. « Vous vous êtes enrichi sous mon commandement. Chacun de vous a un passeport avec lequel il peut se faufiler dans quelque province éloignée où il pourra passer le reste de sa vie, dans le travail honnête et dans l'abondance. Mais vous êtes tous des gredins, et probablement vous ne voudrez pas quitter votre métier. » Après ce discours, il les quitta et prit seulement l'un d'eux avec lui. Personne ne sut ce qu'il était devenu. D'abord, on douta de la vérité des dépositions, l'attachement des brigands pour leur chef étant connu. On pensa qu'ils s'étaient efforcés de le sauver, mais dans la suite, elles furent justifiées. Les attaques nocturnes, les incendies et les pillages cessèrent. Les chemins devinrent sûrs. D'après d'autres renseignements, on apprit que Dubrovski s'était sauvé à l'étranger.